Ces derniers temps, si vous écoutez la presse écrite, parlée, si vous écoutez nos responsables nationaux, régionaux, une chose est débattue. Quelle est la valeur de la famille ? Comment définir une famille ? La Fédération évangélique, le réseau FEF, le CNEF, la Fédération protestante évangélique de France, un ensemble de familles protestantes ont écrit au gouvernement, demandant au gouvernement de ne pas changer les traditions qui ont été basées dans la Bible sur la notion familiale. Or, ces derniers temps, nous étudions ensemble l'Épître aux Corinthiens. Je vous ai apporté déjà un ou deux messages dessus. Et ce matin, dans un des textes que nous allons étudier, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, Dieu refixe trois points cruciaux sur le couple et la famille. Mais avant de commencer à lire ce texte, j'aimerais prier cette prière que j'ai écrite. Elle est courte, mais elle se veut une introduction. En principe, on prie à la fin. Mais là, j'aimerais que ça soit quelque chose qui soit notre trame de fond. Et là, je m'adresse aussi aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, à ceux qui cherchent l'âme sœur ou l'âme frère. Hein. On parle souvent de l'âme sœur, mais on ne cherche pas l'âme frère. Il y en a qui cherchent l'âme frère. C'est pas un jeu de loto. C'est pas quelque chose qui joue à la roulette russe. Mais c'est important. Alors j'aimerais que cette prière, vous puissiez la noter, peut-être. Elle n'est pas inspirée, hein, elle n'est pas supérieure à ce que j'ai pensé, mais voilà. Père, donne-nous ta grâce pour que nous puissions prendre conscience de ta présence dans notre famille présente et future et pour obéir à tes commandements afin de fortifier nos liens. Nous faisons souvent la différence entre notre famille, entre notre vie personnelle et la vie chrétienne. Or, mes amis, nous sommes un. À partir du moment où on est deux dans la même personne, il y a un traitement médical qui s'impose. Père, donne-nous de pouvoir vivre ta présence dans notre famille. Voilà ce que dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, au verset 8. Les Corinthiens, je reprendrai un petit peu tout à l'heure, les Corinthiens ont écrit à l'apôtre Paul, l'ont interpellé en demandant, mais alors que devons-nous faire, nous chrétiens ? Et voilà, il dit au verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Il était probablement veuf, ou au moins il n'avait plus d'épouse. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Hein, c'est tout l'Ancien Testament. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, à être mariée avec lui, qu'il ne la répudie pas. Si une femme a un mari non croyant et que le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme. Un chapitre, j'en conçois, quelque peu chahuté par beaucoup de pensées théologiques, mais que je veux juste essayer de travailler ensemble, parce qu'il me paraît important que nous qui sommes mariés, nous qui envisageons de nous marier, nous qui sommes jeunes, je me mets dedans, hein, nous puissions envisager l'avenir, non pas avec notre cœur, non pas avec nos pensées, non pas avec la pensée du monde, mais avec ce qu'il me semble être la pensée de Dieu. L'un des problèmes de l'église de Corinthe, j'essaye de vous donner juste des petits morceaux à chaque fois, était le manque d'assurance dans leur compréhension. Savoir comment la foi en Christ devait affecter les relations humaines. Et j'ai pris en exemple 1 Corinthiens 7, versets 1 et 4. La question est de savoir si la foi en Christ implique, par exemple, qu'un mari et sa femme s'abstiennent de relations sexuelles parce que l'un est chrétien et l'autre non. Alors ça paraît un petit peu, peut-être difficile d'aborder ce sujet le dimanche matin, mais c'est l'Écriture qui en parle et je me permets d'en parler. J'espère que je ne choque personne. Paul donne une réponse négative et on va la voir. Lorsque Dieu rentre dans notre vie, une chose extraordinaire se passe. Nous devenons enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous devons jeter tout ce qui est autour de nous. Ne plus avoir de relation avec notre époux, nos enfants, nos familles, nos amis. Dieu nous a appelés là, ça sera le message de la semaine prochaine, si vous lirez la suite d'un Corinthiens 7. Dieu nous a appelés là. Et il y a quelque chose de particulier à faire. Mais ce matin, on va essayer de se concentrer sur ces quelques versets parce qu'ils sont porteurs dans notre monde qui aujourd'hui autorise, légalise toute autre chose. 1 Corinthiens 7, 1. Je remonte. Il dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, on n'a pas cette lettre. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme.
Où ?
Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, il nous rassure. Que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Que dit-il ? Il dit que si on veut se préoccuper de Dieu, si on veut être un chrétien engagé, alors il ne faut pas s'embarrasser. Et là, je vais me faire pilonner en disant par notre épouse. Donc quelqu'un qui veut vraiment se donner à fond à quelque chose, la meilleure des choses, c'est qu'il soit libre. Et c'est ce qu'ont appliqué une autre religion qui demande à ses responsables de ne pas être mariés. Mais ce n'est pas ce que dit Paul. Paul, il dit, si vous voulez servir Dieu, restez célibataire, faites tout ce que vous avez à faire. Par contre, pour éviter la débauche, pour éviter que les hommes aillent courir à droite et à gauche, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Le plan de Dieu dans Genèse chapitre 2, c'est que l'homme trouve sa femme et l'épouse. Ça, c'est le plan de Dieu depuis Genèse. Et Paul n'invente pas, ne refait pas l'histoire, ne change pas la doctrine de Dieu. Pour éviter la débauche. Qu'est-ce qui a amené le déluge à Noé ? Vous vous souvenez ? La débauche. Le peuple vivait sans Dieu. Le peuple réinventait les lois. Qu'est-ce qui a amené le fait que les hommes et les femmes à Babel se sentaient bien ? Qu'est-ce qui a amené la plupart des problèmes ? C'est que les hommes et les femmes ne respectaient plus le plan de Dieu. Qu'est-ce qui a amené Moïse à écrire dans Deutéronome aux hommes qui changeaient de femme parce qu'un matin, leur femme ne leur plaisait plus ? Ce qui est incroyable, c'est que Dieu a fixé des règles et que nous sortons toujours de ces règles. Et qu'il est bon de temps en temps, plutôt que d'écouter la presse, de se dire « Mais que dit Dieu ? Que dit Dieu ?» Dans les versets 12 à 16, il est question que devrions-nous faire si un des deux époux met sa foi en Christ et pas l'autre ? Est-ce que le croyant devrait couper cette relation pour rester pur ? La réponse de Paul est claire. Il dit non. Dans la mesure, on va le voir tout à l'heure, où le couple reste un couple, où il n'y a pas une guerre totale, où il n'y a pas de menace. Regardez ce qui est intéressant. Il dit, À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Waouh, on va aller plus loin tout à l'heure dans le texte. Que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car, et ça on le lit jamais, le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Mes amis, on en a parlé, je crois, quand j'avais fait la série sur la place de la femme dans l'expansion de l'Église. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passe quand Dieu touche notre vie. Il touche notre famille. Ce n'est pas un salut totalement individuel. C'est un salut individuel dans la démarche. Mais c'est un salut qui rayonne. Un salut qui éclaire nos familles, qui touche nos enfants, nos maris, nos beaux-parents, nos collègues. Parce qu'alors rayonne la parole de Dieu. Nous sommes en présence. Maintenant, Dieu a fait son habitation en nous. Et ça a des rejaillissements dans notre vie personnelle. C'est pas facile. Et je sais que beaucoup d'entre vous vivent des situations difficiles, des mariages difficiles. Parce que quand on accepte la parole de Dieu et qu'on l'annonce clairement à notre famille, qu'on veut le vivre dans notre famille, alors il se passe de l'obstruction, des difficultés. Mais la chose qui est extraordinaire, c'est de savoir que l'amour de Dieu règne en nous, que la paix de Dieu règne en nous, et que quelque part, nous sommes, là il est marqué, sanctifiés. Notre mari, ou nos femmes, pour nous des hommes, nos enfants, sont au bénéfice de la parole de Dieu. Vous avez déjà réfléchi à ça? Ce qu'on veut, c'est couper. Souvent. Ah, maintenant, je suis chrétien, plus de relation avec... Ouh. Dieu nous a... Il n'a pas dit qu'il voulait nous enlever du monde. Il a dit qu'il voulait nous laisser dans le monde. Pourquoi faire? Pour briller. Pour briller. Pour être des témoins. Est-ce que je peux être un témoin parmi les chrétiens? Il y en a qui réfléchissent. Ouais, quand même. Un peu. Oui, on va partager ce qu'on fait le dimanche matin, c'est partager nos témoignages. Mais nos témoignages, ils ont touché qui, là, mes amis, là? Avec le porte-monnaie, avec la sœur qui donne de l'argent, avec qui? Ben, les autres! Les autres! Si on n'allait pas au magasin, si on se faisait... Maintenant, on pourrait, nous, chrétiens, avoir un service chrétien Internet. Pur! Se faire livrer à la maison. Parce qu'on ne veut pas avoir de contact, et même que le livreur laisse en bas. S'il n'était pas chrétien, on ne sait jamais. Non, Dieu nous a allé... Qu'a fait Jésus, mes amis, sur terre? Avec qui? Lisez les évangiles. Avec qui il a passé le plus de temps? Avec les non-chrétiens, mes amis. Pas qu'avec ses disciples. Ses disciples, il les a formés, il a dit, allez dans le monde. Allez prêcher la parole, témoigner, montrer. Et là, c'est intéressant, non? Que Paul prenne du temps à ces nouveaux chrétiens. Et là, il va, vous verrez dans la suite, il va passer des messages aux juifs assez tonitruants. Il va dire des choses, la circoncision n'est rien. Il va dire ça à des juifs. Comment ça, la circoncision n'est rien? Mais c'est le signe que Dieu a donné dans l'Ancien Testament. Oui, mais pourquoi Jésus est mort? Parce que le signe maintenant, c'est la circoncision du cœur. Ah oui? Alors que faire? Restez dans la relation que vous aviez lorsque Dieu vous a appelé à la foi en Christ, le Seigneur et le Sauveur ne détruira jamais l'alliance établie dans le mariage que Dieu a ordonné au moment de la création. Si nous sommes dans une relation impure, il faut la changer. Si nous sommes dans l'adultère, il faut le changer. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que si nous étions mariés avant de devenir chrétiens, alors restons mariés. Et prions, je vais venir plus loin, que notre conjoint, notre conjointe, nos enfants trouvent Christ. Parce que c'est là que Dieu nous a appelés. C'est toute la suite du texte. Vous verrez, hein, à partir du verset 18. Gagner l'autre. Ah, c'est facile pour toi, Jean-Claude. Mais ceci dit, dans le verset 12 et 13, l'apôtre permet que si le partenaire incroyant quitte le croyant et ne veut plus rien avoir à faire avec le croyant, alors le croyant n'est plus lié. C'est le seul texte. De façon permanente à cette relation. Autrement dit, la foi en Christ ne permet pas d'abandonner une relation voulue par Dieu, mais il la sanctifie. Avec la persévérance, la prière, une conduite humble et exemplaire, le partenaire croyant patient pour gagner l'incroyant à Christ. Dieu a donné cette liberté, cette grâce de vivre dans nos familles, dans nos foyers. Ce n'est pas mon commentaire, mes amis, là, c'est simplement ce que dit le texte d'1 Corinthiens chapitre 7. Et nous venons de pays différents, de traditions différentes, mais la parole de Dieu, elle est la même sur toute la terre. Elle est adressée à toutes les générations, à toutes les couleurs, à toutes les races, à tous les peuples. Et pour nous déjà, c'est difficile. Alors expliquez ça aux autres. Pour qu'on explique ça aux autres, il faut le vivre, n'est-ce pas? La seule liberté que Dieu donne, c'est que l'incroyant quitte le croyant. Mais il permet une exception. Si la relation est abandonnée, détruite, en dehors de votre volonté ou de votre contrôle par le partenaire incroyant, le croyant innocent n'est pas lié à la personne qui déserte la relation. Et là, Pierre me dirait, il y a débat sur ce texte. Où les traditionnaux disent, oh non, il n'y a aucune rupture. Ceux qui sont un peu d'un autre parti disent, ah si, le terme grec ici dit bien cassé. Ce que je nous dis ce matin, et je le dis aux jeunes aussi, c'est que quand on choisit un époux ou une épouse, c'est pour la vie. C'est pas je changerai les pièces quand je serai fatigué. C'est pas je te dégagerai quand tu ne seras plus utile à rien, ou quand je trouverai qu'un autre ou une autre est plus beau ou plus belle. C'est pour là, c'est un plan de vie. Et notre société ne comprend pas ça, nos traditions ne comprennent pas ça. On peut changer. Il y avait une publicité dans le temps qui disait « vous vous changez, changez de bonhomme ». Mais on ne peut pas, ce n'est pas le plan de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 7, Paul revient sur ces choses. Il a donné sa vie. Alors, on ne sait pas s'il est veuf, on ne sait pas s'il n'a jamais été marié. Il a dû être marié parce qu'il appartenait au Sanhédrin, et le Sanhédrin, il fallait être marié pour y être. Mais en tout cas, il a dit à ceux qui veulent vraiment servir Dieu, alors servez-le seul. Mais c'est un appel. Vivre seul, c'est un appel, mes amis. C'est pas facile. On dit que se marier, c'est porter à deux les fardeaux qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Mais on dit à ceux qui sont seuls, vous portez tout seul les fardeaux que vous auriez pu porter à deux. Et c'est pas facile, c'est un appel. Et j'en conçois que c'est pas facile. Et qu'on a besoin d'être ensemble pour porter ces choses. Si la relation est abandonnée, détruite en dehors de votre volontariat, il dit voilà ça dans 1 Corinthiens 7, j'avais repris mon commentaire. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu ne nous a pas appelés à vivre en paix. On ne peut pas aller contre la volonté de l'autre. Et Paul le savait très bien. Paul est dans un contexte difficile. Les Juifs ont entendu Jésus enseigner. Dans Matthieu chapitre 19, les Juifs lui parlent à Jésus et le mettent à défi. Il y a deux courants. Il y a les courants libéraux, les courants traditionnels. Il y en a un qui s'appelle Hillel, l'autre qui s'appelle Shammai, et ils se chamaillent en bout de course, à savoir qui a raison. Et ils mettent Jésus à l'épreuve. Dans Matthieu chapitre 19. Mais Jésus répond de ne pas détruire. Il est possible, comme Jésus l'a prédit dans Matthieu 10, 34, que la rébellion, l'incrédulité du partenaire incroyant fasse du christianisme une épée qui sépare plutôt que d'être un baume qui apaise et guérit. Voilà ce qu'a dit Jésus. Il a dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, Mais vous lisez quoi ? L'épée. Parce que c'est ce qui arrive lorsqu'on déclare les choses, n'est-ce pas ? C'est ce que Dieu fait, mais il ne veut pas qu'on tue avec notre épée. Le principe que le croyant suit est alors de rester dans la relation ordonnée par Dieu, de ne pas chercher à abandonner ou à détruire. Nous sommes des ouvriers de paix, des agents de réconciliation, pas des agents de guerre, pas des destructeurs. Dieu est rentré dans notre vie pour donner l'amour. Dans 1 Corinthiens 7, 39, une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. Voilà l'enseignement de l'apôtre Paul. Et je suggère, ou je crois, que c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas dans une de ces relations-là, si Dieu nous a mis dans d'autres, alors il faut faire le point. Et après, c'est au cas par cas. On ne peut pas faire une règle générale. Mais Dieu veut bénir nos familles. Et vous les jeunes, Dieu veut bénir vos familles. L'exemple que nous a laissé Jésus, l'exemple que nous a laissé Paul, c'est pour notre bien. J'ai pour vous quoi ? Le malheur ? Le bonheur. J'ai pour vous des projets de paix. Pas de malheur. Dieu ne veut pas qu'on rentre dans des relations qui ne sont pas bonnes. Dieu ne veut pas qu'on s'égare. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas nous châtier. Il veut nous bénir. Dans l'Ancien Testament, le dernier prophète, le prophète Malachie, au chapitre 2, il parle aux Juifs. Et il dit finalement, dans le premier chapitre, il leur parle de leurs offrandes. Il dit, vous offrez à Dieu tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mort. Et vous demandez après pourquoi vous n'êtes pas béni. Et puis, au chapitre 2, verset 13, il dit, voici en deuxième lieu ce que vous faites. Vous couvrez l'autel du Seigneur de larmes, de pleurs, de gémissements, parce qu'il ne tourne plus vers l'offrande et qu'il n'agrée plus rien de votre main. Et vous dites, pourquoi ? Parce que le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Bien qu'elle soit ta compagne, la femme de ton alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens en lui. Un seul l'a fait. Parenthèse, Abraham. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car détestable est la répudiation du Seigneur. Le Dieu d'Israël, comme celui qui couvre de violence son vêtement, dit le Seigneur des armées, vous prendrez donc garde à votre esprit, vous ne trahirez pas, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi le fatiguons-nous ? C'est en disant, quiconque agit mal, plaît au Seigneur. Ouh, il est dur le texte. Vous fatiguez le Seigneur. Vous savez, souvent en tant que parents, quand nos enfants parlent trop à côté de nous, tu me fatigues. Et finalement, le Seigneur nous dit de temps en temps, vous me fatiguez. Parce que vous dites, quiconque agit mal, plaît au Seigneur. C'est pas grave. C'est le monde. C'est comme ça. Ou encore, vous dites, c'est dans de telles personnes qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu du jugement ? C'est pas facile, mes frères et sœurs. C'est un message peut-être un peu difficile à écouter. Mais c'est le message que Dieu nous a laissé, parce qu'il est dans la parole de Dieu. Et il est là, il s'adresse à notre communauté, il s'adresse à chacun de nous. Jésus a dit, donc je l'ai cité tout à l'heure, dans Matthieu 19, 9, « Quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité en épouse d'une autre, commet un adultère. » C'est Jésus qui parle. Souvent on dit que Paul, il parle tout seul, mais là, c'est Jésus qui parle. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fixe les yeux sur l'adultère, jusqu'à ce 20e siècle, ou fin de 20e siècle, on s'adressait à des gens qui rompaient l'alliance, c'est-à-dire qui avaient une relation tripartie, où un troisième venait interrompre l'unité des deux. Récemment, le langage, c'est que vous avez eu une aventure extra-conjugale qui ne remet pas en cause vos relations. Et petit à petit, on a décliné l'adultère comme étant juste lié à des gens mariés. La Bible, elle, parle de l'adultère comme la relation entre deux personnes non mariées. Et le mot qu'il emploie est fort parce qu'il emploie le mot pornéa, pornographique. On a tiré ce mot. Traduit dans certaines versions par fornication, prostitution, impudicité. Ouh. Vous les jeunes, n'essayez pas la chaussure avant de l'acheter. C'est ça que ça veut dire en langage clair. C'est-à-dire que je vais aller essayer dans le lit de plusieurs à savoir quel est le mieux. Quel est celui avec qui je vais pouvoir vivre, passer ma vie. Si Dieu a mis un garçon de côté pour vous, si Dieu a mis une fille pour vous, je ne sais pas s'il y a des garçons ce matin, des jeunes, il va vous la montrer ou le montrer. Et nous qui sommes mariés, Dieu a mis à côté de nous la personne qui nous était nécessaire. C'est pas facile. Il y a des combats, mes amis. Il y en a qui mènent des combats depuis des années en disant jusqu'à quand. Mais Dieu nous a laissé un message. Il est avec nous là. Il nous a choisis, il nous a appelés. Est-ce que nous voulons courir le risque de faire ce qui n'est pas ce que Dieu demande pour nous plaire à nous ou pour plaire à Dieu? 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accaparateurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le verset 10, il dit, c'est là ce que vous étiez avant de connaître Christ. C'est là ce que vous étiez avant de connaître Christ. Alors résumons-nous, devenir chrétien ne nous entraîne pas à changer nos relations avec notre conjoint. Devenir chrétien ne nous amène pas à nous séparer de notre conjoint. Devenir chrétien amène une bénédiction sur notre famille. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les débauchés. Ce n'est pas juste ceux qui ne croient pas en Dieu. On a travaillé la semaine dernière sur l'épître aux Romains au chapitre 5 pour le baptême de notre frère Bonnie. Et dans ce chapitre, il était marqué que notre nouvelle nature, notre nouvelle personne ne supporte pas le péché. On ne peut pas vivre dans le péché. Parce que c'est contre nature. Alors j'espère que ce message n'est pas trop rugueux. On verra la semaine prochaine, dans la fin à partir du verset 18, quel est l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Que chacun de vous reste dans l'état où il a été appelé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Paul le développe par la suite. Il y a une diapositive qui a disparu. Non, elle arrive. Voilà. Voilà ce que dit l'Ancien Testament. C'est mon incursion ce matin, la deuxième. Le septième commandement. Le septième commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est Dieu qui le demande. C'est plus Paul, c'est plus Jésus, son fils. C'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons mariés, que nous le restions. Dieu veut que nous ayons une relation pure, sainte. Et Dieu nous a lancé un appel d'être des bénédictions là où on est. Est-ce que nous rentrons dans ce plan, mes amis? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est trop difficile à vivre? Ou est-ce que cette épée devient trop forte? Que ce combat devient trop difficile? Ou que la tentation est trop dure? Moi, je veux prier ce matin. Je sais que c'est difficile. et je tremble en donnant ce message. À savoir comment nous allons l'entendre. Mais ma volonté, c'est d'enseigner toute la parole de Dieu. Et ça fait partie des textes que Paul nous a laissés. Donc que Dieu nous bénisse pour que nous soyons vraiment ses agents, ses enfants, ses lumières, là où il nous a appelés. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier ce matin parce que tu nous as laissé là des textes qui sont peut-être difficiles à entendre. Mais Seigneur, c'est des textes pour notre bonheur. C'est des textes afin que nous puissions rester en paix avec toi. Alors je veux prier, Seigneur, pour ceux ce matin qui peut-être ont été heurtés par ce texte, qui peut-être ne l'interprètent pas de la même manière que nous l'avons interprété. Mais Seigneur, ma volonté, ce n'est pas de détruire, mais au contraire de construire avec toi. Alors je veux te prier pour tous ceux qui ont été touchés, interpellés, parce que peut-être une de ces situations les a atteints. Nous avons vu la semaine dernière des sœurs qui ont décidé de régler leur vie, de régler leurs problèmes, quels qu'ils soient. Et mon vœu, ma prière, comme celle de l'Écriture, c'est que le pécheur ne meure pas, que le pécheur ne continue pas de vivre dans le péché, mais qu'il puisse se repentir et marcher en communion avec toi. Seigneur, touche ton assemblée ici. Si tu as laissé ce texte, c'est que tu voulais qu'il nous soit utile, qu'il ne soit pas un outil contre, mais un outil pour bâtir, qu'il ne soit pas un détruit pour détruire, mais qu'il soit la preuve de ton amour, parce que c'est toi qui as fixé les plans. Alors Seigneur, je veux te remettre chaque couple, chaque foyer, avec les tensions, avec les difficultés. Je sais qu'il y en a. Et Seigneur, que tu sois auprès de nos frères, de nos sœurs qui souffrent, auprès de nos frères et sœurs qui peut-être sont au bord de lâcher, que tu sois avec ceux qui peut-être ont lâché, et qui aujourd'hui sont enferrés par la difficulté. Seigneur, nous ne voulons pas les juger. Nous ne sommes pas là pour les juger. Nous sommes là juste pour les amener au pied de ta croix. Et Seigneur, que tu guérisses, que tu consoles, que tu donnes toi des solutions, Seigneur, des solutions pratiques. Seigneur, tu n'es pas là pour exclure, mais pour inclure. Alors, frères et sœurs, si ce message vous a touché ce matin, si vous dites, ce message, il fallait que je l'entende. Il n'est pas facile à digérer. Il m'a heurté. Mais c'est la parole de Dieu. Je veux simplement que là où vous êtes, et là vous pouvez le faire discrètement, plus discrètement que dimanche dernier, que vous leviez la main et que vous dites, Jean-Claude, j'ai besoin que tu pries. Tu connais mes combats. Tu sais mes difficultés. Vous qui êtes jeune, qui êtes peut-être attiré par des choses, tenté d'accomplir ce que Dieu ne veut pas. Moi aussi, je veux prier pour vous. Je veux être votre berger, pas votre père fouettard, pas votre juge, mais celui qui vous accompagne, là où c'est difficile. Alors s'il y a quelqu'un ce matin qui veut juste que je prie pour lui, pour elle, quelqu'un qui aimerait que Dieu l'accompagne dans son combat, dans son couple, oui, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Oui, oui, oui. Oui, oui, que Dieu vous bénisse, oui, oui, que Dieu vous bénisse, oui, que Dieu vous bénisse. C'est pas facile, mais Dieu est là, n'est-ce pas? Il nous a promis, il n'est pas là pour nous juger, mes amis. Il n'est pas là pour nous détruire. Il connaît nos combats. Alors, y aurait-il encore juste une main ou deux qui aimeraient se lever pour que je prie, oui, que Dieu te bénisse, ma sœur. Oui. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces mains qui se sont levées, Seigneur. Tu vois, tu avais préparé ce message pour ce matin. Et Seigneur, je veux que, quelle que soit la situation, la difficulté de mes amis qui ont levé la main, tu puisses venir à leur secours, que nous puissions trouver des solutions, peut-être ensemble, en discutant, ou qu'elles trouvent des gens pour les aider, pas pour les juger, mais pour que, Seigneur, leur situation se règle. Pour que tu rétablisses la paix, pour que peut-être tu touches ce conjoint, cette conjointe, pour que tu touches ses enfants, pour que tu puisses permettre vraiment, Seigneur, que notre relation d'amour avec toi s'exprime aussi dans nos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Amen.